بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre ce soir les programmes de Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, avec pour objectif de connaître au mieux les paroles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de notre prophète Muhammad Mustafa alayhi afdalu salah wa atamu taslim. Durant les vacances, on peut appeler ça des vacances, on a eu par la grâce d'Allah la possibilité de faire en 7 jours, de parcourir en 7 jours les versets d'Al-Fatiha. On a eu la possibilité par la grâce d'Allah de voir un petit peu les versets de Sourate Al-Fatiha en 7 séances. Avec ça, par la grâce d'Allah, on a une certaine approche, une certaine, on va dire, compréhension globale de la Sourate Al-Fatiha qui doit normalement nous permettre de réaliser, de méditer sur l'essence des versets qu'on lit dans la Salah ou qu'on entend durant la Salah. Et si une personne est intéressée par le tafsir, hein, ça on avait oublié de le dire la dernière fois, si quelqu'un veut encore découvrir le tafsir, parce que c'est des paroles de dîn, que ce soit le tafsir du Coran ou les Riyad al-Salihin, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tous les deux, mashallah, un c'est kalamullah, l'autre c'est kalamur rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais si quelqu'un veut approfondir un petit peu les lectures de salat, on a inshallah un créneau le vendredi soir à la masjid des Lataniers, donc depuis pas mal de temps, par la grâce d'Allah, où on fait les différents surahs. On avait commencé par Al-Fatiha, qu'on a fait ici, An-Nas, et là on est arrivé à Idha Sama'un Shaqqat. Donc si quelqu'un est intéressé, comme on a dit, pour apprendre encore les versets du Coran, hein, ça se passe, Inch'Allah, le vendredi soir. Alors nous, on revient vers Riyad al-Salihin avec le chapitre Muraqabatullah, Al-Muraqaba, avoir la pensée d'Allah dans le cœur. Et quand on dit la pensée d'Allah dans le cœur, ça veut bien dire que l'essentiel des paroles tourne autour de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a insisté depuis pas mal, plusieurs mois même, on avait commencé ce fameux hadith qui s'appelle hadith Jibril, de lequel l'ange Jibril alayhi salam était venu rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux sahaba dans la masjid Nabawi sous l'apparence d'un être humain et qu'il avait, on va dire, posé des questions au prophète alayhi salatu wa sallam dans le but de tester, entre guillemets, les connaissances du prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait compris de qui il s'agissait. Et donc, il avait répondu de façon tout à fait naturelle aux questions de l'ange Jibril. Et en fait, c'est les réponses que le prophète alayhi salatu wa sallam apportait. C'était également, on va dire, pour consolider les bases de iman que les sahaba avaient déjà. On avait expliqué que, vous voyez, même on a affaire aux sahaba, aux meilleurs des hommes, aux plus grands savants, hein, des personnes qui ont déjà vécu, pour certains parmi eux, 13 années avec le prophète alayhi salatu wa sallam à Mecca, et ils vivent encore avec le prophète alayhi salatu wa sallam à Madina. Donc c'est des gens qui ont une connaissance exceptionnelle de l'islam. Malgré ça, l'ange Jibril vient rappeler les bases. Et les bases, c'est quoi? Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que le iman, la foi, et les autres points qu'on va voir concernant le ihsan, les degrés de foi, du rapprochement, de proximité avec Allah Azza wa Jal. Et donc nous, on avait commencé le fameux hadith Jibril dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam avait répondu à la question qu'est-ce que la foi. Il avait répondu que la foi, c'est attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Muhammad est son prophète. Et ça, on l'avait expliqué. Le deuxième pilier de la foi qu'on avait expliqué, c'est croire aux anges, al-iman bil malaika, et ça aussi on avait plus ou moins détaillé, hein, donné quelques indications. Ensuite, al-iman bil rusul, le fait de croire aux prophètes, au pluriel, donc à tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés, et on avait enchaîné de manière un petit peu plus concis, un peu plus rapide, avec al-iman bil kutub, le fait de croire aux livres, au pluriel, qu'Allah Azza wa Jal a révélé à ses prophètes. Et on avait vu la grande leçon à retenir, hein, de la foi sur les prophètes et les livres, c'est l'universalité de l'islam. C'est une religion qui a commencé depuis Adam, alayhi salam, qui se terminera avec la risala du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'au dernier des hommes, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un sur cette terre pour dire Allah. Il y aura toujours, donc l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle parcourt toutes ces prophéties, toutes ces générations, depuis le premier homme jusqu'au dernier homme qui voudra encore se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et on avait vu qu'avec ça, on a une reconnaissance des deux grandes religions monothéistes qu'Allah Azza wa Jal avait accordées à Moussa alayhi salam et ensuite à Isa alayhi salam, mais avec la conviction qu'Allah a parachevé, c'est-à-dire qu'Allah a complété, a embelli avec le Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, le meilleur, avec l'islam, la meilleure des religions, le meilleur des prophètes et le meilleur des livres, le meilleur des kutub. Et pourquoi le meilleur des livres? Parce que c'est le livre le plus complet, la religion la plus complète, qui régit tout ce qui concerne la vie spirituelle de l'homme, mais également la vie profondément humaine de l'homme. Parce que dans le Coran, on a des recommandations concernant, certes, la salat, la relation avec Allah, il y a l'explication du hajj, il y a la prescription du ramadan, il y a l'importance donnée aux zakat, et ainsi de suite, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les ibadah, les actes d'adoration purs. Mais il y a également des conseils, des ordres, des principes concernant la vie de l'être humain, la vie de couple, la relation avec son épouse, la relation d'une manière générale avec ses enfants, les devoirs des parents vers leurs enfants et ainsi de suite. La vie du croyant dans la société, ses relations avec ses proches, ses relations avec sa famille, ses relations avec ses voisins, avec les personnes qui l'entourent, qu'ils aient la foi ou qu'ils n'aient pas la foi, des règles de conduite. Une personne, un ami, quelqu'un de la famille plutôt, a fait un voyage il y a quelque temps, enfin pas dans les vacances là, dans un pays, il avait dit qu'il a été voir des gens qui avaient certaines habitudes, on va dire, dans leur village. Ils avaient une habitude que lorsqu'ils allaient rendre visite aux gens, apparemment il y aurait comme juste un rideau à l'entrée des portes de ces personnes, et donc ils entraient et s'asseyaient. Ils entrent et ils s'assoient sans cogner, sans demander l'autorisation, sans dire assalamu alaikum, est-ce que je peux entrer, rien du tout. C'est une tradition. C'est des musulmans, quand ils vont rendre visite à quelqu'un, ils entrent, ils s'assoient. Et puis l'hôte, les personnes de la maison, ils viennent, ils voient que la personne est là, ils l'accueillent et tout. Donc ça, c'est une tradition qui est contraire au principe de notre dîn. Parce que dans le Coran, j'ai plus le nom du chapitre en tête, Allah Azza wa Jalla explique bien aux gens qui ont la foi que lorsqu'ils doivent entrer dans une maison, ils doivent demander l'autorisation 3 fois. Et si au bout de 3 fois, l'autorisation n'est pas, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour, dans ce cas, la personne doit repartir. Bref, ça me revient à l'esprit, parce que la personne a fait un petit compte rendu de son voyage, m'a dit que voilà, entre autres, il y a ce genre d'habitude un petit peu spécial, un peu étrange, et nous voyons que l'islam régit ça aussi. Subhanallah, dans notre dîn, il y a le juste milieu, il y a le cadre de vie du croyant, du citoyen, du papa, du frère, du ce que vous voulez, du mari et ainsi de suite, du fils par rapport à ses parents. C'est ce qui fait que notre dîn est complet. Kamil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Le dîn est complet parce qu'il y a tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est suffisant. Ce qui est suffisant pour qu'un être humain trouve le contentement d'Allah Azza wa Jal. Et quand on dit que c'est suffisant, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et il ne faut surtout pas retirer quoi que ce soit. Parce que le concept du Din Kamil, il est cacheté. C'est pas comme des trucs de version Windows 96, après 97, 98, après passer au Vista, Xperia, après Windows 7, un moment donné, on ne comprend plus rien. D'accord? C'est pas ça. C'est Din Kamil, Akmal Tulakum Din. Cacheté, attesté par Allah que ce din est complet et parfait. 2 sifat. Complet, parfait. Et din qui vient d'Allah. Allah, créateur de la machine humaine, créateur du corps humain, créateur de la psychologie humaine, créateur de tout ce qui va faire la spiritualité de l'homme qui connaît ce qui est bon pour l'homme. Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais ça c'était une leçon importante à retenir de Al-Iman bil Kutub et bil Rasul en même temps. Et ça me fait légèrement sourire, mais c'est plus un rire jaune plus qu'un sourire. C'est quand on entend certaines personnes à l'approche des fêtes, comme Noël, jour de l'an, ils s'offusquent, ils sont très 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 frustrés, très en colère, s'ils entendent un discours qui va dans le sens que ça c'est la religion, ça ce sont les fêtes de telle religion. Nous, Allah Azza wa Jal nous a accordé Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Allah nous a accordé Eid al-Bakrid. Et donc, on n'a pas fêté d'autres fêtes. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand on dit ça. Il y a des gens qui sont extrêmement en colère, qui disent que non, nous on croit en toutes les religions, ça c'est, on va reconnaître. Ajib, c'est pas des références Facebook, mais quand même, ça reflète un petit peu l'opinion du citoyen lambda et de l'homme virtuel aussi. Il dit que ça c'est un miracle de Jésus, de Isa, on va faire revivre, on va voir et tout déjà. La naissance de Isa al-Islam et Noël, c'est pas deux choses complètement, pardon, complètement différentes, d'accord? Et ça, ce serait une fausse, une mauvaise compréhension de Al-Iman bil-Kutub et bil-Rusul. Quand on dit que nous croyons aux religions qu'Allah a révélées à Moïse, à Moussa, à Jésus, à Isa al-Islam, à la Torah, à la Taurat, au Injil, hein, à la Bible, ça ne veut pas dire pour autant que, ben, on va mettre tout ce qui existe de ces religions en pratique. Non. Parce que le dîn, quand il est venu, il va abroger ce qui est venu avant. Tout comme lorsque Jésus est venu, Isa a été envoyé par Allah Azza wa Jal, il a abrogé la religion d'avant et il apporte une nouvelle religion avec les mêmes bases. Jamais de contradiction. Ça, je ne sais pas si on a assez insisté là-dessus, qu'on a vu Imam al-Kutub al-Rusul, il n'y a aucune contradiction dans les religions. Comme Allah a révélé à l'origine. Parce que ce sont les mêmes bases d'adoration d'un seul Dieu, ne pas lui associer quiconque des actes d'adoration, un cœur qui va, hein, qui est un penchant, hein, qui tend vers Allah Azza wa Jal, respect des parents, comme on avait expliqué, ça il me semble dans Iman bil-Rusul, les points que montrent les grandes religions. Donc, la mauvaise compréhension serait de dire que, ben voilà, en tant que musulman, je crois en Moussa, je crois en Isa, donc si lui fait telle fête, je fais. Si lui fait telle fête, je fais. Ben, attends, ben, si tu fais Noël, faut faire la Shabbat aussi. Faut faire Yom Kippour, je sais pas comment, me dis pas n'importe quoi, mais qu'il n'y ait pas le nom des religions, des fêtes juives, mais il y a un truc qui tourne autour de ça, Yom Kippour ou un truc comme ça, ben dans ce cas, fête tout, mon frère. Ben, ah bon, ben, tu fais pas la fête de ceux qui suivent la religion de Moussa alayhi salam, donc tu crois pas à Moussa? Aucunement, c'est pas ça, croire à Moussa et à Issa. Le fait de croire en ces prophètes, c'est connaître la valeur de ces prophètes. Connaître que c'était des gens qui étaient parfaits. C'était des Anbiya Allah. Et être conscient, nous, de notre côté, que le respect que nous avons pour Moussa et pour Issa dépasse de loin le respect que ces gens-là, ils ont pour leurs propres prophètes. Oui ou non? Quand le prophète est arrivé à Madinah, il a vu les musulmans jeûner, les Yahouds jeûner. Parce qu'on m'a dit, c'est quoi ce jeûne, ce carême que vous faites? Il dit, ça c'est quand Allah Azza wa Jalla a envoyé sa nusrat à Moussa alayhi salam. C'est le jour de Ashura, d'accord? Et le prophète me dit que nahnu ahaqqu bi Moussa. Nous avons plus de droits sur Moussa alayhi salam. Pourquoi? C'est quand même une parole qui peut choquer. Il dit, comment ça, nous musulmans, on a plus de droits sur Moussa alayhi salam que ceux qui le considèrent comme prophète? De la même façon, on peut dire que nous, on a plus de droits sur Isa, sur Jésus, que ceux qui le considèrent comme prophète. Pourquoi? Parce que notre croyance sur Isa, c'est la croyance authentique. La croyance sur Moussa, c'est la croyance authentique dans laquelle il n'y a eu aucune modification, aucune falsification. C'est ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir dire que nous respectons ces prophètes, d'accord? Nous reconnaissons que ce sont des religions qui ont été envoyées par Allah, des livres envoyés par Allah, et donc respecter, hein, si on a des, bien sûr, on a des gens de telle religion, on doit avoir un comportement exemplaire envers eux, ne pas dénigrer les gens, ça c'est extrêmement important, mais bien mettre les cadres et les frontières. Ma croyance, elle est comme ça. Ta croyance, elle est comme ça, tout simplement. Toi, tu as une Honda, moi j'ai une Toyota, lui il a une Peugeot, c'est des voitures, mais c'est des modèles différents, moteurs différents, mais c'est pas pour ça que je te déteste. Là, côtoyer, respecter, mais il y a des cadres. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a envoyé « Ya ayyuhal kafirun ». Autrement, pourquoi Qul ya ayyuhal kafirun a été révélé? Est-ce qu'on va considérer Qul ya ayyuhal kafirun comme un sourate d'extrémiste? Na'oudou billah. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'boudou ma ta'boudoun. Oh les kuffars, la a'boudou ma ta'boudoun, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum a'abidouna ma a'boud, et vous non plus, traduction approximative, hein, vous non plus, vous n'adorez pas ce que j'adore. Wala ana a'abidou ma a'abattoum, wala antum a'abidouna ma a'boud, à peu près les mêmes phrases avec des formes grammaticales différentes. Et la conclusion c'est lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne. Ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de côtoyer les Yahoud, les Banu Qaynuqa', les Banu Qurayda et les Banu Nadir. Les trois tribus qu'il y avait à Madina, tant qu'ils étaient corrects, le prophète était correct avec eux. Ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accueillir les chrétiens de Najran. Si je ne me trompe pas, Najran, c'est près de la Palestine. Ils avaient rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Masjid Nabawi. Respect, échange, dialogue, il n'y a aucun souci. Mais, lakum dinukum waliyadin. Nous adorons Allah de cette façon. Nos croyances en Allah, c'est al-ahad, al-hulhu Allahu. Ahad, Allahu, As-Samad, Lam Yalid, attention, Lam Yalid ou Lam Yulad, attention, ça c'est capital. Si on n'a pas Lam Yalid ou Lam Yulad, La ilaha illallah n'existe pas, ne compte pas. C'est pour ça aussi, ces petits sourates là, il faut, on va trouver une occasion, par la grâce d'Allah, d'autres personnes le feront, apprendre les sourates. Si quelqu'un ne connaît pas sourate l'ikhlas, fais attention quand même. Sourate l'ikhlas, la sincérité, c'est les bases de l'iman. Si on n'a pas intégré lam yalid wa lam yulad, qu'Allah n'a pas enfanté, et ainsi de suite, le iman n'est pas complet. Et ça, lam yalid wa lam yulad, c'est la différence entre nous et les nasara. D'accord ? Donc, le fait de croire au prophète Iman bil Kutub et aux livres qui ont été révélés, mais tout en sachant qu'il y a eu des falsifications, malheureusement, ils n'ont pas pu rester sur le chemin des Anbiya alayhim salatu wa salam qui ont été envoyés, malgré que c'était les ulul azmi min ar-rusul, les plus grands des prophètes, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa salam, Ibrahim et Noé, Nuh alayhi salam. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il envoie Muhammad sallallahu alayhi wa salam, il annonce que c'est l'homme le plus, c'est l'homme parfait, la religion parfaite, le livre qui est parfait parce qu'il a eu la garantie de protection de la part d'Allah Azza wa Jal. Ça, on avait expliqué en introduction de l'Al-Fatiha que inna nahnu, complété, inna nahnu, nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Qu'Allah Azza wa Jal prend l'engagement que c'est lui en ce sens qui révèle le Coran et qu'il en est le gardien, le protecteur. Alors que pour les autres religions, Allah Azza wa Jal avait confié aux responsables des religions le fait de garder les livres. Et la religion était conservée tant que les prophètes étaient vivants. Après leur décès, génération pour génération, il y a eu des divergences, des manquements, ou de la malhonnêteté parfois, ou des prises d'intérêt, des détournements de religion à des fins personnelles, ce qui est arrivé à des contradictions. Alors que pour notre religion, Allah Azza wa Jal a garanti la protection du Coran jusqu'au Qiyam. Bref, tout ça, c'est ce qu'on a vu le contenu en gros, hein, en gros de Al-Iman Bil-Kutub, Al-Iman Bil-Rusul. Et ce qui doit en ressortir, c'est, je ne sais pas comment on dit ça en arabe, un kokoriko, un kokoriko, hein, du Iman, la fierté. Fierté d'être la umma, de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si moi je m'appelle Ibrahim, lui c'est Riyad, lui Ismaïl, Ishaq, Abdallah, si nous habitons, nous vivons plutôt à cette époque, nous faisons partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah azza wa jalla nous a choisis. C'est là un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam dit que vous êtes les derniers et vous serez les premiers, dire que nous sommes la dernière umma et la première umma qui rentre au Jannah. Sharaf, honneur de la part d'Allah Azza wa Jal pour cette communauté et avec toutes les autres honneurs qu'Allah Azza wa Jal fera à cette communauté le jour de Qiyam. Donc, être fier que nous suivons le meilleur des hommes, l'homme qui était parfait, nous suivons le livre qui est parfait, ce livre qui est le même qui a été révélé et que nous sommes le peuple élu par Allah pour avoir la religion authentique jusqu'au Qiyam. Pour avoir une religion qui est inchangée, un Coran qui est intact. Et que nous avons des valeurs qui sont les mêmes, exactement ce qu'Allah avait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a révélé Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'au dernier des versets. Donc ça c'est un motif de fierté. Ensuite donc, on avait commencé al-iman bil-yawm al-akhir, le cinquième pilier de la foi, croire en l'au-delà. Là, on va lire le livre. S'il y a, je ne sais pas si l'ampoule est brûlée. Si l'ampoule n'est pas brûlée, ce serait gentil d'allumer. Hein? Je ne sais pas. Parce que là, on va lire les textes. Il y a des hadiths qui sont écrits un peu petits. Donc, s'il y a possibilité d'allumer, barakallahu fikum. Donc, al-iman bil-yawm al-akhir. Donc, ça, on avait commencé. Juste pour récapituler légèrement. Oui, on avait vu que parmi les différents points, je dis que quand on voit al-iman bil-yawm al-akhir dans le hadith Jibril, le but c'est pas d'apprendre entièrement la foi en l'au-delà, parce que ça c'est vraiment un chapitre qui prendrait, mashallah, le temps qu'il faut. C'est juste connaître les bases, s'il vous plaît. On essaie de... Ouais, barakallah, c'est parfait, c'est amplement suffisant. C'est connaître les bases de notre croyance concernant l'au-delà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que... Alors, déjà, on avait... Il y avait les mushrikines, les polythéistes, à l'époque, je crois, ça, celle-là, pour eux, quelle était leur conception de l'au-delà? C'était quoi? Ben, ils n'avaient aucune conception. Aïda mitna wa kunna turaban wa ifaman a inna la. Ils croyaient que c'est quoi? Quand on meurt et qu'on est turab, on est poussière et ifam, et les os sont réduits en cendres, en poussière, en ce sens, hein, est-ce qu'on va être ressuscité? Ils ne croyaient pas à la résurrection. Dans d'autres religions, il y a d'autres approches. Selon eux, ben, le jour de la résurrection, ben, il y aura une bonté divine, une bénédiction qui vient de Dieu, et que tout le monde va aller au paradis. Tout le monde, pécheurs ou autre chose. D'accord ? De notre religion, c'est quoi le juste milieu ? C'est que, premièrement, أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم الآخر. Tout d'abord, d'être conscient, d'avoir la conviction des différentes étapes qu'il y aura le jour de Qiyam. La première de ces étapes, c'est lorsque l'ange Israfil alayhi salam va souffler la deuxième fois dans As-Sur, dans la corne, et là, Allah Azza wa Jal va redonner vie à toutes les créatures qui ont peuplé cette terre depuis le premier homme jusqu'au dernier. Et ça, on avait vu juste avant les vacances, on a vu que les gens seront ressuscités hufatan, uratan, ghurla, sans vêtements, sans chaussures, et pour les hommes non circoncis. Et dans d'autres versions, on parle également mains nues, c'est-à-dire démunies complètement. D'accord ? On avait vu que le verset, on avait expliqué كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ, qu'Allah Azza wa Jal nous redonne vie exactement comme à la base on a eu la vie lorsqu'on est né. C'est-à-dire, on est sans vêtements, on est non circoncis, on est avec rien du tout. Et quand on est ressuscité le jour de Qiyama, c'est comme une seconde naissance. Mais attention, comme une seconde naissance, mais avec un casier judiciaire. Une nouvelle naissance physique, mais avec un casier judiciaire. Quand un bébé naît, il n'a pas de casier judiciaire, on est d'accord. Ça n'existe pas. Même dans les gouvernements les plus atroces, il y en a, d'accord, où on accuse n'importe qui de tout et de n'importe quoi. On n'accuserait jamais par coup d'un petit musulman, parce qu'il s'appelle Mohammed, on ne va pas dire que lui, petit bébé terroriste. Non, quand même, laisse-le respirer. Maintenant, s'il commence à jeter son biberon, jeter son tétine et tout, là, on va dire qu'il veut jeter des choses, peut-être qu'un jour, il va jeter des bombes. Ok, on pourra peut-être l'accuser dans 10 minutes, 15 minutes. Hein? Ça arrivera à une époque aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Ils vont vite, ils vont très vite. D'accord? Mais quand un enfant naît, un nouveau-né, il est ma'asoum, comme dit, il est totalement innocent. D'accord? Mais la résurrection, on va renaître de nos cendres. Hein? C'est pas comme un dessin animé longtemps, qu'un se vend de l'enfer, renaît de ses cendres. C'est pas du tout. Non, le chevalier du phénix qui renaît de ses cendres, c'est pas comme ça. On renaît effectivement à partir du coccyx. Le hadith dit, Ajbu Zanabi, si je ne me trompe pas sur le terme, lorsqu'il n'est pas détruit par la terre, à partir de ça, Allah Azza wa Jal va ordonner que le corps se reconstitue. On ne va pas entrer dans les détails, parce qu'on veut juste voir les étapes, mais les hadiths expliquent, les commentaires, les hadiths expliquent que comment la chair va se reconstituer, les poils, la peau, et ainsi de suite. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va ordonner à ce que l'âme, là, ça reste des corps sans rouh, sans âme, et ensuite l'âme rentre, si je ne me trompe pas, par le cartilage du nez, et l'âme retourne dans le corps, et ça devient un être vivant. Mais cet être vivant qui vient de naître, ce n'est pas qu'il naît, il est innocent, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien fait. Non, il a déjà tout fait. Et ça a tout fallu aussi, risquable, d'accord. Il a déjà tout fait, tout a été joué. C'est-à-dire que quand il est là, c'est que les dés sont jetés, khalas, il a déjà fait son parcours. Ça, c'est ajib, ça. Ça fait réfléchir. Quand l'être humain voit le akhira, quand il est ressuscité, il doit savoir que c'est fini pour lui. Soit il a tout gagné, soit il a déjà tout perdu. Mais il n'y a pas une seconde chance. Ça, c'est ajib, ça. De ce dunya, de ce monde, il y a toujours une seconde chance, lui ou non. On peut toujours retourner auprès d'Allah. Le plus grand des pécheurs peut revenir vers Allah. L'homme qui a tué 99 plus 1, 100 personnes, il a eu le tawbah de la part d'Allah. Alors que tuer, on avait déjà dit, tuer 100 personnes, en plus avec mains nues, enfin, avec des coups, des épées et tout, c'est pas avec des armes de destruction massive comme les pays pacifistes ils ont, c'est quand même, faut être motivé. Serial killer, psychopathe, comme vous voulez, même lui il a eu le tawbah, le maghfira, pardon, de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on peut toujours demander tawbah sincèrement, et Allah est tellement clément, tellement miséricordieux, qu'il peut encore accorder le pardon. Mais le jour de Qiyama, on est livré à soi-même. Parce que le jour de Qiyama, on te donne des choses écrites. C'est fini là. C'est comme quand tu as un boarding pass. Comment on appelle ça? Carte d'accès à bord. D'accord? Quand c'est écrit, je ne sais pas moi, Dubaï, vol EK, je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas dire, change ça, va mettre Malaisie, vol. C'est fini mon frère. Tu as payé, tu as imprimé ton boarding. Quand c'est écrit Mamoudzou, tu ne vas pas dire Sydney. C'est pas possible. Tu vas pas dire, donne-moi Blanco, moi effacer, moi décider, moi aller Australie. Pas possible. Fallait acheter un billet pour l'Australie, un autre investissement, un autre effort. Le jour Qiyama, quand tu as ton livre, subhanallah, le verset, on va se la rentrer là, c'est beaucoup plus difficile que pendant les vacances. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaba. Kitab, le livre. Kitaban yalqahu. Comment? Manshura. Pas fermé, hein? C'est pas un livre secret. yalqahu manshura, ouvert, tu lis, tu vois tout ce qui est écrit dedans, tu vois ta vie. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala te dit? Iqra kitab, lis ton livre. Ça va. Iqra kitab, amr, l'ordre, lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. En ce sens, aujourd'hui, c'est toi-même, il suffit que tu sois toi-même le hasib, le comptable, le juge. C'est-à-dire que tu vas lire 12 juin 1980, en sortant de la mosquée, hein, je me suis attardé avec un groupe d'amis et parlé 20 minutes, 20 ribats différents. On a parlé des personnes, on a critiqué des gens, on a calomnié, on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, on a peut-être prononcé des paroles grossières et ainsi de suite. Telle date, vous avez été tel endroit, fait telle chose et ainsi de suite. Lorsque l'homme, lorsque l'être humain voit ses écrits, il ne peut que reconnaître. Parce que dans l'au-delà, on n'a pas l'esprit contestataire. Il n'y a personne qui va essayer de mentir. Tiens, t'es pas là, moi. Hein? Pas moi, ça. C'était lui qui t'a conduit. Comme ici, quand on fait trapeau, on fait flash à ou là. Fais dérogation, mets-tu le vieux. Permis le vieux, il a 75 ans, il ne conduit plus. Il en a 12 points. Ben, mets-tu là-haut, non. Pas moi, ça. Ah non, Benzange, là, déconné à ça. Ça va, il était fatigué. Il n'a pas dit rien. L'être humain n'a plus l'esprit contestataire. Il n'a juste à attester ce qu'il a fait. Et même répondre devant le tribunal d'Allah, c'est quelque chose qui est impossible. Ça me dit, man nouqish al-hisab faqad udhib. Celui à qui Allah Azza wa Jal commence à poser des questions précises sur ses actions, c'est déjà un azab de la part d'Allah. Et ça, c'est contraire au hisab yassira. Hisab fasawfa yuhasabu hisab, je ne me trompe pas, hisab yassira. D'accord, celui qui reçoit son livret de compte dans la main droite, il aura un compte facile. On ne va pas entrer dans les détails des tafsirs, mais les mufassirs expliquent que le hisab yassira, c'est pas man nouqish al-hisab. Hisab yassira, un compte facile, c'est qu'Allah Azza wa Jal va passer sur ce qu'il a pu faire. Ça, c'est grand faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais quand Allah demande des questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas saisi les opportunités de ce monde pour demander pardon à Allah. Il y avait Ramadan, il y avait Sid Shawwal, il y avait le jour de Ashura pour jeûner, il y avait le lundi, le jeudi, il y avait des tahajjud qiyamul layl où Allah Azza wa Jal descend au tiers le ciel, subhanallah, dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal descend au dernier ciel de ce dunya, il accepte, hal min mustaghfirin, est-ce que quelqu'un demande pardon, que j'accorde le pardon, toutes ces forces, qu'est-ce que Cheikh Idriss rajoute? Faire, Inch'Allah, le 13, 14, 15 pour jeûner, lundi, jeudi, tous ces forces, des cadeaux qu'Allah Azza wa Jal accorde, unique, Laylatul Qadr, si quelqu'un n'a pas pu demander pardon, n'a pas pu obtenir la grâce d'Allah, alors qu'Allah Azza wa Jal, quand il t'est une fois dans l'occasion, c'est que vraiment, la personne n'avait pas de bonne volonté. Et que si quelqu'un, on a l'illusion que la personne a vécu heureux dans ce monde, il meurt, il vit jusqu'à je ne sais pas quel âge, il est riche, il est beau, il n'a pas de problème, il n'est jamais malade, sa femme est bien, ses enfants sont en forme, ils réussissent, ses enfants ils deviennent docteurs, avocats, juges, je ne sais pas quoi, chef d'entreprise, grande maison, il est heureux, il dit ça c'est un homme qui a réussi. Si quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'épreuve dans sa vie, qui n'a pas de problème, on peut craindre le pire. Parce que là, une des façons, on avait vu ça la dernière fois dans le Fatiha, même dans certaines circonstances, c'est un verset, on a vu que quand Allah Azza wa Jal veut pardonner les péchés d'une personne ou élever le grade d'une personne qui n'arrive pas à s'élever par ses actes d'adoration, qui n'arrive pas à trouver le tawba par des pleurs et des istighfar, comment Allah Azza wa Jal va remédier, entre guillemets, Allah ne remédie pas, Allah prend la décision. Comment Allah Azza wa Jal va lui accorder cette faveur qui est le tawba et le raf'u darajat, le fait d'augmenter son degré, c'est par les ibtila. Et ça, on l'a expliqué. Quand Allah Azza wa Jal éprouve quelqu'un, c'est qu'Allah aime cette personne. Allah veut élever le grade de la personne, veut pardonner ses péchés et veut lui accorder des hasanan. Et c'est ça, il faut qu'on change complètement notre vision du monde. Ne voyez pas le gros riche comme étant l'homme heureux. Non. S'il a, alhamdulillah, Allah lui a accordé. Mais le fait qu'Allah lui a donné une montagne de richesses, ça ne veut pas dire qu'Allah l'aime à la hauteur de ses biens. Non. le muhabba d'Allah Azza wa Jal ne se compare pas au dinar, au dirham que la personne a, à l'argent, à l'or qu'il a pu cumuler. Abadan. Bien au contraire. Je lis encore ce hadith, excusez-moi de vous le dire, je lis encore ce hadith sur Facebook il y a quelques jours. Ça, c'est des liens, hein, des gens qui mettent, parfois c'est profitable, c'est un rappel aussi. Ils disaient qu'ils posaient une question, c'était bien ça. Ils posaient une question, combien de temps avant les pauvres vont-ils entrer au paradis? Combien de temps avant?
500
ans. 500 ans, hein, Idriss Moussa, il est sur Facebook, il est sûr. D'accord? 500 années avant. 500 années avant les personnes aisées. Les personnes aisées musulmans, bien sûr, la question ne se pose même pas. Le musulman pauvre, on va pas en faire les mêmes vannes, mais on dit pas le pauvre musulman parce qu'il n'y a jamais un pauvre musulman. Le musulman est toujours heureux. Le musulman pauvre, démuni, entre Jannah avant le musulman riche qui faisait des bonnes œuvres. 500 années. Pourquoi? Parce qu'il était éprouvé de ce dunya par al-faqr, par la pauvreté. Et quand Allah éprouve, Allah accorde énormément, augmente le degré, augmente les grades. Vous voyez? Ça, c'est extrêmement important que nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous revoyons notre vision de, et surtout, ne croyez pas ce qui se dit à la télé. Ne croyez pas les publicités, ne croyez pas tout ce qu'on dit, les recettes du bonheur qui sont émises sur les ondes télé, radio, internet, ce que vous voulez. Ça, c'est complètement erroné. Ça, c'est les logiques du dunya. Ces conceptions du bonheur ont été dictées par des gens pour lesquels Allah Azza wa Jal a attesté par les paroles de son prophète alayhi salatu wassalam que ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. C'est le jannah. Ceux qui n'ont pas la foi, ce monde c'est le jannah, le paradis. Et le paradis se termine à leur mort. Donc c'est normal que pour eux être heureux c'est être riche, être beau, être célèbre, avoir des diplômes, avoir des revenus, avoir une telle ni'ma, une maison, piscine, grosse voiture, et ainsi de suite. Pour eux, ça c'est la recette du bonheur. Ne croyez pas ce qu'ils disent. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rester pauvre. Non, on fait ce qu'Allah nous a donné, alhamdulillah, qana'a, faire preuve de gratitude, être satisfait, mais être persuadé que tout ça, ça n'a aucun intérêt. Et au contraire, moins on a eu de la part d'Allah, plus on aura de l'au-delà, plus vite on accédera au Jannah, on accédera au paradis. Alors que depuis que les enfants vont à l'école, on martèle, tu dois travailler pour avoir un diplôme, pour gagner, pour avoir un bon travail, pour gagner beaucoup d'argent et tu vas être heureux. Et on continue à développer, à garder ce genre d'afkar, ce genre d'idées par le biais des médias, de la télévision, les émissions, les téléréalités, le dernier poison de notre époque qui nous donne l'illusion que ces gens-là, ils sont heureux, ils sont... Excusez-moi, j'ai même de commenter l'autre fois, je sais pas quoi, tomber sur un truc, une personne, comment ils appelaient le truc de... Pas ce Crestory, le truc que tout le monde aimait là. Un gagnant de, il y a 2 ans, il était interviewé pour un truc, il était cause comme un canard. Il avait une voix bizarre, son cheveu était comme un canard. Il était bizarre, il bougeait d'une certaine façon, il s'habillait comme un épouvantail. Et il a gagné l'édition 2011. Il dit quoi, c'était lui. Lui, il a été choisi par les Français. C'est comment il appelle? Star Academy, un truc comme ça, il regarde. Un truc comme ça qui tourne autour de ses... Eh ben, ça te donne une conception du dunya. Et l'on choisit lui. Alors que quand Allah Azza wa Jal choisit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ashraful Makhlouqat, c'est celui dont le comportement faisait trembler les gens, trembler de stupeur et de fierté, d'admiration, où les gens n'arrêtaient pas d'être. Il n'y a pas un homme qui s'est détourné, qui a détourné son visage, pour sallallahu alayhi wa sallam, par dédain, par dégoût, ou frustré, ou déçu, abadan, toujours une admiration. Et ceux qui n'ont pas voulu croire en lui, c'était pas. Orgueil, fierté, takabur, parce qu'il devait garder la religion des ancêtres. Quand le message est arrivé à César, Kaysar, est arrivé à Kisra, qu'on appelle Kisra, le Kaiser, non? Il dit comme ça? Le Kaiser, c'était Bayan, ça. Le Kaiser, l'empereur de Perse, d'accord? Pourquoi ils ont refusé? Le Kaiser, on va le baptiser comme ça, l'empereur Perse, déchiré, il ne veut pas, il ne voulait pas. César, le Kaysar, maintenant, penser que il a su, il a senti qu'il y a quelque chose de positif. Mais ensuite, il y avait le conseil des, je sais pas qu'on appelait des ministres ou je sais pas quel machin, le Sénat, je sais pas quoi, ils ont dit que non, tu peux pas pour telle raison. Il s'est ravisé. Il a pas eu tawfiq de la part d'Allah. Mais quand un homme voyait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaissait que ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un être humain, mais c'était quelqu'un qui était au-dessus du lot, avec un comportement éthique exceptionnel, extraordinaire. Et toutes les valeurs que les sociétés prônent à notre époque, liberté, égalité, fraternité, lorsqu'on parle de l'abolition de l'esclavage, égalité des races et tout, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le premier à les avoir mises en application. Je ne sais pas si c'était ici qu'on avait dit ou ailleurs, ce n'était pas uniquement des thèses. Ce n'était pas que des thèses de bienséance dans la vie de l'homme. Le Prophète les mettait en pratique. Le Prophète a franchi Bilal ibn Rabah, un noir descendant d'esclaves éthiopiens, esclave lui-même. Il l'a franchi parce que son cœur est rempli de lumière, rempli de iman. C'est un homme fort, pas fort, les muscles. Fort parce que quand on a mis la pierre sur lui, il a dit « Ahad, Ahad, Allah est unique ». Jamais va quitter ce dîn. Le Prophète a trouvé cet homme magnifique. Sans regarder qu'il était éthiopien, esclave, il n'avait rien du tout. Le Prophète a trouvé cet homme magnifique. Il a dit Abou Bakr a franchi cette personne. C'était la priorité avant même d'aller voir les autres. C'était un homme exceptionnel qui a eu l'honneur de donner Adhan à Mecca pour la première fois de l'histoire, Adhan à Madina pour la première fois de l'histoire, et qui était une personne que le Prophète avait dit oh Bilal, quelle action tu accomplis? J'entends, tu n'es pas dans le Jannah. C'est pas que le Prophète réserve ce genre de parole à son cousin, à Ali, à Uthman ibn Affan, à Abu Bakr al-Siddiq, non, à ses proches, ou à Hashimi, au Quraysh. Il a dit ça à Bilal ibn Rabah, celui qui n'avait aucune valeur chez les Quraysh. C'était pire qu'un objet. C'était quelqu'un qui était utilisé pour les travaux. Bas, même pas compté comme un être humain. Le Prophète dit Bilal, tu entends, tu n'es pas dans le Jannah. Quelle action tu fais, Bilal? Allahu Akbar. Après, on va venir nous chanter que l'égalité des blancs et des noirs, c'est tel pays, c'est telle constitution. Là, wallah, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wahyum min Allah, révélation de la part d'Allah. C'est ça, il faut être fier, mes chers frères. Très fier de notre religion. Et en même temps, on est fier. En même temps, c'est quoi la suite d'être fier? Dites-moi si on a bien compris ce qu'on avait expliqué. Quand on est fier, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Transmettre. On est tellement content qu'Allah nous a donné ce ni'ma, ce bonheur qui est l'islam, avec ce fath, cette ouverture qu'il y aura de l'au-delà, ces futuhad, ces récompenses. Maintenant, tu as quelqu'un dans ta famille ou dans ton voisinage, parmi tes collègues, parmi tes amis, il n'a pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans son cœur. Et tu aimes cette personne. C'est un ami, c'est quelqu'un que tu estimes, quelqu'un de cher à tes yeux. Est-ce que tu ne vas pas lui donner un peu de cet amour, de cette lumière, faire en sorte que lui aussi il bénéficie afin qu'il soit avec toi un jour dans le Jannah? Ça doit être notre priorité. Mais pour le transmettre, il faut des qualités. Il faut pouvoir le dire, pouvoir transmettre tes valeurs. Et avant même le discours, il faut vivre ces valeurs. Il faut avoir le meilleur des comportements. Si dans la vie, dans notre travail, ou dans notre établissement de le lycée où je suis étudiant, ou à la fac, ou je ne sais pas où, j'ai vraiment un comportement de cagnard, comme on dit, de racaille, je ne sais pas comment on appelle, vraiment quelqu'un que quand il voit Ali, ben on voit un voleur. D'accord? Quand on voit Ali, le gars il ramasse au GSM. D'accord? Tout de suite, il regarde s'il est là et tout, et ainsi de suite. Ben il va venir te parler, tu sais, moi, mon frère, je suis musulman, je suis. Voilà, l'islam, c'est beau, c'est la plus belle de religion. Il regarde, il tremble, il dit, ben après, quoi, il s'est volé à la fin. D'accord? Quel message on va donner? Si à travers, et là, on va dans un cas plus réel, si dans les salles de classe, collège, lycée, les professeurs, ils s'arrachent les cheveux parce qu'il a des petits musulmans dans la classe, ou des petits, je le dis clairement, des petits Comoriens, des petits Maorés qui donnent les cheveux blancs, quelle image du dîn on donne? Quand est-ce qu'on va pouvoir expliquer c'est quoi l'islam? Ça, je vous dis, hein, collège, je ne dirais pas, un collège en ville, eh bien, les Arabes la ville, d'accord? Petits Arabes, petite génération dorée, les profs, ils disent, on veut plus, hein? On veut plus ceux qui font Arabe LV2, ça, c'est que des musulmans de centre-ville, c'est des casse-têtes, hein? On prend plus. Les proviseurs et tout, les collèges, ils connaissent, c'est la honte, la honte. Alors qu'on est censé réincarner la plus belle des religions, qui dit plus belle des religions, c'est pas uniquement plus belle des salats et plus belle le plus beau des ramadans, plus beau des pèlerinages, c'est également plus beau comportement. Meilleur akhlaq. Quand Aïcha dit, 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 quand Donc il y a un travail à faire sur soi, vivre cette religion, en être fier, et un travail à faire sur soi-même pour que la personne qui est en face soit séduite par ce dîn. Quelqu'un qui te voit dans ton travail avec un comportement exemplaire, exceptionnel, vous ne pensez pas que la personne sera attirée par la religion ? Cette femme, excusez-moi, hein, ne rigolez pas, ne souriez pas. Cette femme qui est dans, cette jeune femme qui est dans votre bureau et ainsi de suite, elle met son machin décolleté. À chaque fois qu'elle va baisser pour prendre quelque chose, toute bonne homme, gros PV, ça regarder. Et il voit qu'il y a une seule personne qui baisse le regard, qui a de la pudeur, qui a du respect. Ça, c'est respecter cette femme. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. C'est ça, respecter cette femme. Ce n'est pas la considérer comme un morceau de chair chez le boucher, un morceau de filet, on va regarder à droite, à gauche. Est-ce que les tendres, est-ce que la chair là est fraîche? Est-ce que ça c'est bon? C'est bon, c'est bon ou autre chose? Ça, c'est pas respecter la femme, ça. Respecter la femme, c'est respecter sa pudeur, respecter son corps, respecter ses idées. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite de l'ange Jibril alayhi salam lors du premier wahi, il a peur. Qui est-ce qu'il va voir en premier? Khadija, sa femme. Lorsqu'il reçoit l'ordre de la part d'Allah, Hudaybiyah, que c'était un coup de jeu, ça, Hudaybiyah. Ça aussi, un jour, un sirat, c'est tellement. Si on n'a pas les bases de aqidah, de hadith, de tafsir, de sirat, on aura du mal à comprendre notre dîn. On va vivre, j'allais dire subir, on va vivre la religion au travers des enseignements, mais on ne va pas vivre ça comme un truc magnifique. Parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on pratique vraiment. Lorsque le prophète reçoit l'ordre de la part d'Allah, à Hudaybiyah, ils ont fait ce trajet jusque-là. Ils ont amené leur caravane. Puis, quitter Madinah pour aller Makkah, c'est quelque chose. C'est pas on prend Sapko en 3 heures de temps de nuit, ou bien on prend limousine, un Crown Victoria en 3 heures de temps, 2 heures de temps de nuit. Ben non, c'est quelque chose. D'accord, ils arrivent et les Quraysh disent non, vous entrez pas, désolé. Ils sont à la porte de Makkah. Ils disent revenez l'année prochaine. Vous reviendrez, promis. Mais dans un an, ça te mine, ça te détruit, ça te casse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre de la part d'Allah de retourner à Madina. Hikmah, sagesse de la part d'Allah azza wa jal, parce que ce qui va venir après, ce sera fath min Allah. Quand ils vont revenir, faire l'umrah avec l'honneur, et ils vont entre-temps avoir, parmi les shurouts, parmi les conditions du pacte, 10 années de paix, où ils vont envoyer da'wa à tout le monde. Des gens ils vont venir dans la religion. Ils vont en recevoir des wafd, c'est-à-dire des groupes de gens qui viennent à Madina, qui viennent observer les musulmans, comment ils vivent, et ils embrassent l'islam par village, par quantité. Là, on voit Allahu Akbar, la grande sagesse de la part d'Allah. Ils n'ont pas eu un umrah, mais ils ont eu futuhat. Nasrullahi wal fath des afwaja. Les gens ils sont entrés dans la religion afwaja à cette occasion et à d'autres occasions jusqu'à la fin. Futuhat de la part d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, le Prophète doit dire aux Sahaba qu'Allah a ordonné qu'on retourne à Madina. Sahaba, amoureux de Makkah. Excusez-moi, hein, je ne dis pas ça pour personne, peut-être pour moi-même. C'est pas qu'ils voulaient aller à Makkah parce qu'il y a l'hôtel 5 étoiles, parce qu'il y a ça, ils vont bien se reposer. Non! C'est des amoureux de Baytullah. Ils ont été déchirés quand ils ont quitté Makkah. Ils n'ont pas vu Makkah depuis 13 ans. Pour certains. Non, pas 13 ans, excusez-moi. Depuis la Hijra, ils n'ont pas vu Makkah. Hudaybiyah, c'était quelle année encore ça? 6 ou 7? Hein? L'an 6, à peu près. Allez, au moins 5 ans, 6 ans qu'ils n'ont pas vu Makkah tout le Mukarram. Alors que pour beaucoup, c'est des Makkis. C'est des gens de Makkah. Le cœur est attaché à Makkah. Le Prophète, lorsqu'il a quitté Makkah, Allahu Akbar, lorsque cette personne, je ne sais plus son nom, Nestor, je ne sais pas comment, il a dit que voilà, ton peuple un jour va t'exclure. Oh, Mukhriju, est-ce qu'ils vont m'exclure? Ça, c'était terrible. Quitter Makkah, c'était impensable. Tellement les Ahlul Makkah, ils aiment Makkah. Les Ahlul Makkah, on ne va pas rentrer dans 50 parenthèses, mais les professeurs qui nous disent, j'avais des amis, Makki, qui étaient avec nous à Madina, étudiaient à Madina, ils disaient que, on disait, oui, mais Madina, quand même, Allah vous a accordé la proximité, Madina Bawi, et tout, et tout. Elle a dit, oui, Makkah, c'est Makkah. Elle a dit, quand tu es né à Makkah, tu es Makki. Il n'y a rien qui remplace Makkah. Même Madina, il ne remplace pas Makkah de nos cœurs. Il dit que quand le week-end, voici, c'est à Makkah. Le cœur reste... Ça c'est des gens de notre époque. Les Sahaba, comme ils disaient Makkah, là dit qu'on quitte, on retourne à Madina, on ne fait pas le Umrah. Ils ont Ihram là. Ils sont heureux, ils vont faire Tawaf, le premier vrai Umrah de leur histoire, l'histoire du Tawhid, de l'islam, du Sidi Allah. Et là, le Prophète sallam, il dit Sahaba, ils veulent pas. Ils sont cassés. Ils veulent pas partir. Le Prophète sallam, il voit que les Sahaba n'obéissent pas. Il va voir qui? À qui il va faire Mashwara? Avec son épouse. Omé Salma?
Barakallah fik. Avec Umm Salma, radiallahu anha. Il faut dire, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et Umm Salma, dans le match, verra que, ben voilà, ben, coupe l'animal devant eux, et ils vont te suivre au Nabiullah. Ça, c'est respecter son épouse. Respecter le corps, on a dit, respecter la pudeur d'une femme, on a dit, respecter ses idées. Respecter l'intelligence de cette femme. Considérer que c'est à moitié. On aime bien dire ça dans le langage moderne, c'est à moitié. Mais qui considère vraiment sa femme comme moitié? Moitié, moitié, c'est-à-dire moitié quand il ne voit pas où ça trompe, aller qu'une autre femme. La moitié, il est devant où, hein, chérie, je t'aime et tout, Saint-Valentin et tout, et ainsi de suite, chocolat et fleurs. Et l'autre moitié, le côté obscur, lui, il ne voit pas où, tac, à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest, et voilà, des maîtresses à droite, à gauche. Regardez toute l'hypocrisie de notre société, l'hypocrisie des valeurs qui sont transmises, alors que dans notre dîn, subhanallah, on a les meilleures des valeurs. Donc tout ça pour nous faire réaliser que subhanallah, ce dîn est parfait kamil. Et on doit avoir cette envie de propager, de donner cette lumière aux personnes qui nous entourent, et ça passe par le comportement. Donc on était en train de dire tout ça, que même cette femme au bureau, il voit quelqu'un qui a un tel comportement, qui est noble, un homme qui est respectueux. Je vous donne la parole, assurément la personne, il y a quelque chose qui traverse son esprit, que cette personne est différente. Pas est différente parce qu'il est timide, c'est pas une question de timidité, de frustration ou de guerre des genres, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore inventer, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un respect, il y a une lumière, il y a quelque chose qui fait que l'instinct bestial ne se manifeste pas. Le iman fait que la personne contrôle son regard, contrôle ses oreilles, contrôle ce qu'il va dire, contrôle son corps, contrôle ses pensées. C'est ça la profondeur du verset. Inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salat empêche du turpitude et du blâmable. Tu fais ta salat comme il faut, tu deviens le meilleur des hommes. Dans la salat, tu contrôles, tu regardes tout ce qu'on a énuméré. Ben, l'objectif, c'est qu'en dehors de ta salat, tu es pareil. Tu te contrôles entièrement. Quelqu'un qui vit comme ça, s'il y avait une personne qui vivait comme ça, ça aurait été suffisant pour faire entrer une communauté entière dans l'islam. Des villages, des familles, des quartiers auraient embrassé l'islam s'il y avait au moins une personne qui vivait dans la vie de tous les jours comme elle vit dans sa salat, avec un contrôle total. Mais le gros bug, c'est quoi? Le problème, c'est que la première étape même n'est pas atteinte. La salat même, elle est mal faite. Donc, on transporte un truc casse-cassé. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'on revient aux bases. Travailler la salat, travailler la relation avec Allah, travailler la dévotion, travailler le contrôle de soi, pour qu'à l'extérieur, on peut produire les mêmes, on peut revivre les mêmes valeurs, et on devient des gens sur la droiture, sirat al-mustaqim, et des moyens, des intermédiaires de hidayah, de guider pour tout le monde. On va s'arrêter, 47 minutes, ce n'était pas prévu de faire autant. Mais du coup, on n'a pas pu démarrer l'introduction de Al-Iman Bil-Yawm Al-Akhir. On a juste vu que voilà, parmi, bon, au moins on a fait un point, parmi les croyants sur l'au-delà, être conscient qu'on va être tous ressuscités, d'accord, sans vêtements, et ainsi de suite. Et ce qui nous marque vraiment, c'est démunis, sans qu'on ait quoi que ce soit dans la main. Vous voyez, imaginez une personne qu'on retrouve dans la rue, nue, sans rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut se défendre? Déjà, la personne est nue et tout, il est vulnérable, d'accord? Maintenant, quand on dit quelqu'un qui n'a rien, est-ce que quand on est ressuscité avec notre carte bleue, notre gold, notre American Express? Est-ce qu'on est ressuscité avec nos diplômes Master 1, Master 2, doctorat, je ne sais pas quoi? Non! Les anges là, ils ne regardent pas ce que tu avais un compte à la BNP, à l'ABI, à Crédit Agricole, je ne sais pas quoi. Ils ne regardent pas si tu avais un compte en Suisse ou à je ne sais pas où. Ils ne regardent pas tes diplômes. La seule chose qui intéresse, c'est Iman et les bonnes œuvres. Ça, on doit être conscient. Juste être conscient, si on est déjà conscient de cette première étape, notre vie, elle change. Nos objectifs changent. Nos priorités dans les valeurs ne sont plus les mêmes. Parce que là, nos priorités, c'est quoi? Les études, le diplôme, le travail, la réussite sociale, l'intégration, d'accord? La réussite sociale, la richesse. PAC dans la haute société, vivre bien, aisé comme tout le monde. C'est ça notre priorité, dictée par le monde dans lequel nous vivons. Mais quand on est conscient que quand on est ressuscité, mais tout ce qui faisait ta vie n'existe pas, plof, il n'y a rien. La seule chose qui compte quand tu es ressuscité, tu n'as même pas soulier de pied. Rode pas le dernier Nike, le dernier je ne sais pas quoi. Tu es ressuscité pieds nus, mon frère. Mains nues, pieds nus, rien du tout. Avec juste ta foi de ton cœur et ton livret d'action. La seule chose avec laquelle tu avances ou tu recules. Avec ça, tu vas à droite ou alors tu vas à gauche. Et nous, on passe notre vie à gagner un diplôme. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Faites-le. Faites-le, les études, le travail. Ça, ça fait partie des devoirs d'un musulman. Pour fonder un foyer, il faut les moyens. Ça, c'est des règles du dunya, d'accord? Mais ne jamais faire passer ça avant les ordres. Jamais que ça devienne une priorité. Mes chers frères, qu'Allah nous permette de reprendre conscience de la réalité du dunya. Si on voit la réalité du akhira, on peut faire the link, le lien avec le dunya. Et se rendre compte que ben c'est pas du tout ça, on est en train de travailler. Le natija, le résultat, c'est là-haut. On se rend compte qu'on est en train de faire fausse route. On est en train de travailler, développer d'autres objectifs qui amènent à rien, si ce n'est que 20 ou 30 années de pérennité, 50 années, 60 années, alors que les objectifs de l'au-delà, on passe à côté complètement. Essayer de ramener notre vision des choses avec la compréhension saine de la religion. Qu'Allah me l'accorde et nous l'accorde à tous, ainsi qu'à nos proches. Qu'Allah protège nos familles, femmes et enfants, hein, des fitnas de ce dunya. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse entrer la réalité du dîn dans notre cœur. Ressortons de cette assemblée uniquement avec cette prise de conscience que le jour de Qiyama, on est ressuscité sans rien, sans la moindre des choses de nos mains, ni même des vêtements, ni même des chaussures, uniquement avec notre iman et nos actions. Là, on va réaliser comment ça c'est important de travailler, de développer. Ma tawfiq illa billah, qu'Allah nous accepte un tawfiq de comprendre et de propager, et qu'Allah Azza wa Jal nous donne les sifats, des qualités pour être des moyens de guider pour tout le monde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.